Salut tout le monde, à la suite du petit hors-série de lundi dernier, je vous propose de nouveau cette semaine un épisode un peu spécial. Comme je l'expliquais précédemment, outre Distill News ou Distillcast, je co-anime également un autre podcast sur les boissons spiritueuses et en particulier sur leur marketing, les problématiques de branding, le positionnement, etc. Il s'appelle The Bottlefield Show, on publie tout ça en vidéo sur YouTube ainsi qu'en audio sur les principales plateformes de podcast. Si pas déjà fait, je vous invite vivement à le découvrir. Tous les liens sont sur bottlefield.co. Et si vous avez quelques affinités avec ces sujets, ça devrait vous intéresser en complément des actualités plus chaudes que je traite ici. Aussi, je vous propose aujourd'hui de découvrir mon interview de Ludovic Mornant qui co-anime tout ça avec moi. Et sachant que c'est quelque chose que je souhaite à terme développer ici, les interviews j'entends, sans évidemment arrêter de vous relater l'actualité chaude de notre industrie, je pense qu'il n'y avait pas meilleur candidat pour lancer la machine sans stress. Bref, cette interview a été initialement publiée sur notre podcast commun, The Bottlefield Show, mais si vous êtes passé à côté, je vous propose de retrouver cet épisode tout de suite. Alors ne quittez pas, c'est parti! Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet de notre épisode de présentation de vos hosts Super Potion, Distill News, mais enfin Bottlefield Show pour le coup. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir mon co-host Ludovic Mornant de Studio Blackthorn et Super Potion. Donc c'est moi qui joue le rôle d'intervieweur ce soir et lui le gentil interviewé. Du coup, première question, j'imagine tu t'en doutes déjà, mais déjà peut-être une petite présentation, un petit background de qui es-tu finalement, Ludovic?
Oui, évidemment que je m'en doutais, qui suis-je? Ludovic Mornant, enchanté, je suis fondateur et brand stratégiste chez Studio Blackthorn, une agence de communication lyonnaise. Qui existe depuis 2010 maintenant. Et je suis également animateur du podcast Super Potion, qui devient petit à petit un écosystème vraiment à part entière, spécialement conçu pour les startups. Donc voilà, et puis également co-host sur The Bottlefield Show avec toi depuis août, il me semble, août 2021. Voilà, pour faire court.
Voilà, et c'est donc le 12e numéro de ce podcast. Donc, si vous n'avez pas vu les précédents, bah écoutez, faut y aller. Hein,
c'est... Il y en a 11 à voir, ouais.
Il y en a 11 à voir, dont celui où moi je me présente, qui était le précédent. Voilà, donc c'est Black Friday, profitez-en, c'est gratuit. Voilà. sur ce, putain, j'espère que je n'ai pas des notifs de téléphone. C'est pas grave. Du coup, je t'ai emprunté ton super quiz de super potion et je me dis, bah voilà, tu fais que faire ça chaque semaine ou toutes les deux semaines à tes invités. Donc, ouais. À ton tour de passer sous le grill. En plus, je me suis bien marré à les écrire.
C'est vrai. Ah, j'ai l'impression que c'est facile à répondre et en fait, ça va peut-être être dur.
Allez, c'est parti. Porte de la Chapelle ou Whitechapel?
Whitechapel.
CNews ou Distill News?
Distill News.
Sega ou Nintendo?
Nintendo.
Google Alphabet ou Facebook Meta?
Google Alphabet.
Ok. Street Fighter ou Mortal Kombat?
Street Fighter. De ah ouais. Turbo.
D'accord, c'est très précis. Dorothée ou C'est pas sorcier?
Dorothée.
Brain
Sans
Dead.
Hésitation.
Brain Dead ou Evil Dead?
Brain Dead.
Ah, la bonne référence.
Avec attention. Bad Taste. Ouais.
Attention, là, il y a trois choix là cette fois. Tahiti,
okay.
Australie ou Hawaï?
Tahiti.
Tahiti, très bien. Canette ou bouteille?
Canette.
Attention, celle-là, elle est pointue. Stratégie sans exécution ou exécution sans stratégie?
Stratégie sans exécution.
Ok. Greenwashing ou, Greenwashing ou Black Friday?
Eh ben, Black Friday, hein.
Éthique ou esthétique?
Esthétique.
Allez, avant-dernière, celle que qui montre tous mes talents d'écriture. Grande barrière de corail ou voiture bar dans un train corail.
Grande barrière de corail.
Et enfin, la plus dure, je pense, peut-être pour toi, si tu devais en garder qu'un, Super Potion ou Studio Black Sound.
Studio Black Sound. Okay. Mon bébé depuis 11 ans maintenant, donc ouais, assurément Studio Black Sound.
Ouais. Bah alors du coup.
Génial.
Génial, ouais. on va justement enchaîner sur ça, puisque j'ai vu que tu avais un background plutôt visuel. Qui du coup est né avec Studio Blackthorn et que tu avais du coup pivoté vers le branding. Donc est-ce que tu pourrais peut-être expliquer peut-être la genèse un peu de Studio Blackthorn, ce que c'est et qu'est-ce qui fait que tu passes de plutôt d'une partie graphique, graphisme et tout, à une partie branding maintenant.
Ouais, carrément. Et du coup Studio Blackthorn c'est né. Tout simplement parce que globalement je suis sorti, j'ai eu mon BTS, j'ai fait des études d'art, hein, j'ai eu mon BTS en école d'art appliqué et j'ai travaillé peut-être un mois après avoir eu mon BTS, c'était pendant les grandes vacances, mais voilà, j'avais la niaque, il fallait que je m'y mette tout de suite. Et du coup j'ai travaillé comme ça dans trois différentes web agencies à l'époque, à partir de 2007, donc ça commence à faire maintenant. Et de fil en aiguille, j'ai jumpé d'un siège de motion designer à graphic designer, à web designer, tout ça. Et à un moment donné, on m'a débauché d'une entreprise pour aller dans la nouvelle, sauf qu'on ne m'avait pas prévenu qu'elle était déjà en liquidation judiciaire avant même que je sois embauché. D'accord. Ce qui fait que ça a duré peut-être 3 mois ou 4 mois. Et je me suis retrouvé licencié économiquement. Comme ça, un peu du jour au lendemain, sans qu'on paye sans qu'on me paye, etc. Et c'était un peu dur. Donc, au final, tu te retrouves au chômage. Tu as 2 ans et demi, 3 ans derrière toi de background en agence. Donc, j'avais déjà appris énormément de choses en web développement, CSS, HTML, en design, tout ça. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je suis au chômage. J'ai droit au chômage pendant 6 mois, je crois, ou 1 an. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me la coule douce? Est-ce que j'essaie de créer quelque chose? Est-ce que j'essaie de retrouver direct une autre agence? Et je crois qu'en fait, le fait d'avoir un boss au-dessus de moi, un boss final, comme j'aime appeler ça dans Super Potion, ça me saoulait un peu. Je ne suis pas trop dans la hiérarchie, dans ce genre de choses, dans les rapports de force, je n'aime pas du tout ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, lance-toi, tu as peut-être assez de background. Alors, ça, c'est ce que je croyais à l'époque. Et en fait, je me suis lancé. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant avec Pôle emploi, mais ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais pris… on pouvait choisir de partir avec le quart de tout ton pactole Pôle emploi pour pouvoir débuter ta boîte, lancer ta boîte.
C'est l'ACRE, je crois, ou l'ARS. Ça s'appelle l'ARS. Et
c'est même 50%. L'ARS parce que l'ACRE…
Je crois que c'est 50% ouais, même c'est... de tes droits.
En fait,
droits.
C'est 50% que tu as directement. Donc, dans les 50%, tu as 25% que tu as directement et 25% que tu as 6 mois après, si jamais ça marche bien et que tu veux continuer là-dedans. Donc, oui, en fait, ça fait un quart au final au début, un quart 6 mois après. Et du coup, je me suis dit, génial, ça me fait un apport d'à peu près 10 000 euros. Donc, c'est parfait pour me lancer, etc. Sachant qu'au final, j'avais besoin que de ma tête et de clients, quoi. Donc, ça, c'est bon. C'est le truc le plus important et le plus compliqué. Mais voilà, donc je me suis lancé comme ça. J'ai eu des premiers clients de bouche à oreille. J'ai eu la chance de travailler directement pour la maman d'un pote qui travaillait avec Nestlé, etc. Donc, c'était un bon premier projet. Et puis, de fil en aiguille, voilà, c'était des clients en tout genre, du web development, de la création de sites internet. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé pour tout type de clients, mais vraiment, quand je dis tout type, c'est immobilier, magicien, nourriture pour chevaux. Le truc où tu as un peu du coq à l'âne. Et à un moment donné, en 2011, il y a la société, la distillerie Massenet qui m'a approché parce qu'à l'époque, ils voulaient refaire leur site internet. Donc, Massenet, c'est une marque de liqueurs et d'eau de vie très connue dans le monde entier. Enfin, ils sont à Fougerolles. Massenet à Dieffenbach, c'est dans le sud-est, vers Strasbourg, tout ça. Mais ils ont été rachetés par les grandes distilleries Perreux qui font notamment Griotine, etc. Mais bon, en tout cas, à l'époque, ils m'ont contacté et ils voulaient clairement refaire leur site web parce qu'ils avaient une nouvelle vision pour leur marque. Et à l'époque, j'étais typiquement dans la tendance du parallax scrolling. C'est cette tendance qui n'a pas trop évolué parce qu'elle est toujours un peu là. Alors, c'est un truc vraiment de graphisme, mais c'est cette idée que quand tu scrolles, tu as plusieurs calques les uns sur les autres et ça ne défile pas à la même vitesse. Donc, ça donne une impression un peu comme les dessins animés en 2D. Quoi. Ça fait un petit effet de profondeur. Et ça, c'est Nike Better World. C'était le site de Nike qui ont mis ça en place à l'époque en 2010. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est un truc de fou, il faut que je me dise dans les sites en parallax scrolling. Et à l'époque, il n'y avait globalement que moi qui le faisais, parce que c'était il y a 11 ans. Mm-hmm. Donc, je m'étais un peu niché dans juste ce genre de site-là et j'en ai fait plein pour plein de gens. Et quand Massenet a vu ce type de site web, il voulait ce genre de choses.
D'accord.
Et au final, à partir de 2012, j'ai travaillé avec Massenet, les distilleries Perreux et toutes les distilleries, tout leur écosystème à eux. Et j'ai travaillé avec eux pendant près de 7 ans, du coup, jusqu'à ce que je parte en Australie en 2019. Et donc, clairement, pour moi, créer des univers graphiques, ça me plaisait trop, du branding, des nouvelles marques, etc. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant très longtemps pour eux. J'étais après embauché à mi-temps chez eux en tant que responsable du pôle design. Donc,
d'accord.
La refonte de tout leur site web avec plus de 600 produits. Vu que j'avais un background dans le développement, c'était un site en Magento, tester plein de choses. Donc, j'ai pas mal de connaissances en développement pur aussi. Et voilà, donc ça, c'était pour tout le background web design, graphisme, etc. Et quand je suis parti en Australie, ça a été un peu la prise de risque ultime parce que j'étais super confort au final. J'avais un emploi à mi-temps avec un salaire qui payait bien même à mi-temps. De l'autre côté, j'avais mon auto-entreprise avec Studio Black Sounds. Donc, j'étais vraiment pépère.
Et
je faisais un truc qui me plaisait. Donc,
c'était en parallèle.
J'avais aucun souci. Ouais, j'avais 20 heures à faire pour eux. Et puis, l'autre partie de mon temps, c'était du pur bonus freelance. Donc, j'étais très bien. Et du coup, j'ai décidé de partir avec ma compagne pour triper un peu aux alentours de la trentaine, parce que c'est comme ça que.
Du coup, c'est quelle année, ça, le départ ?
2019.
2019.
Donc, c'était.
Ça reste récent.
Ouais, ça reste récent, pile avant le Covid. Enfin, un an avant le Covid, pardon. Et donc, on est arrivé à Melbourne. Et là, donc, grosse prise de risque, j'ai dû démissionner, forcément. Je suis arrivé à l'autre bout du monde. Je me disais que ça le ferait, qu'il n'y aurait pas de souci, tout ça. Et puis, en fait, j'ai commencé à voir que tous mes clients commençaient à être réticents juste parce que j'étais loin. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas, avant l'arrivée du Covid, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait sentir ou percevoir. Les gens ne faisaient pas confiance parce que tu n'étais pas physiquement là. Alors qu'au final, dans ma vie… j'ai vu que 10% de mes clients en vrai, même quand j'étais en France. Quoi. Donc, pour moi, dans tous les cas, ça n'avait pas de sens. Il y a peut-être le décalage horaire qui ne facilite pas, mais bon, en fin de compte, c'était juste un petit détail. Et de fil en aiguille, je commence à avoir moins de gens, moins de clients, où les clients habituels ne reviennent pas forcément, où même moi, je finissais par virer des clients, si je peux dire, parce que…
D'accord.
Le fit n'allait plus ou la vibe n'allait plus ou je voulais me refocus sur des choses différentes. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est dur. Le pays est cher, je suis loin de tout le monde. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer de trouver un travail. Je suis senior en graphic designer, 10 ans d'expérience, ça peut le faire, quoi. Je me disais pas que ça serait compliqué de trouver un job là-bas. Sauf que les anglo-saxons, ils sont très forts pour te dire oui ou non avec le sourire, tout en sachant pas qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Donc, en fait, j'ai eu plein d'interviews, de rendez-vous où je pensais avoir le job et en fait, ils me disaient « ouais, on vous rappelle » et puis jamais de réponse, jamais D'accord. de job. Ils étaient très chauvins d'eux-mêmes, même s'ils voyaient un peu la valeur ajoutée qu'un Français pouvait apporter en Australie. au final, ils étaient quand même pas chauds, quoi. Donc, je me suis retrouvé un petit peu dans la merde, clairement, à l'autre bout du monde. Et les choses se sont pas déroulées comme prévu, même si on visitait le pays et c'était très beau, tout ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, au bout de 10 ans de freelance, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que tu as appris au bout de 10 ans au lieu de juste améliorer tes compétences en design et en développement? Et là, j'ai commencé à regarder, à m'intéresser, à lire 2-3 livres, à regarder 2-3 vidéos. Alors, quand je dis 2-3, c'est multiplié par 1000, hein, parce que une fois que tu as le pied dedans, tu t'en lasses plus. Et au final, j'ai commencé à me dire, OK, bah, t'es un graphiste parmi tant d'autres.
D'accord.
Il n'y a rien. T'es bon dans ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien qui te différencie. On va t'appeler, on va te dire, est-ce que tu peux nous faire un.
Ah, ça ça joue au niveau du prix, quoi, au final.
Voilà,
il y a tellement de concurrence que.
Que les gens prennent le moins cher.
Ouais.
Et pourquoi ils feraient le contraire? Il n'y a aucun problème avec ça, sauf qu'il y a un problème pour moi, vu que bah, j'avais beaucoup moins de projets, de contrats qui signaient, quoi. Et du coup, je me suis dit, OK, comment faire? Et en fait, je me suis dit, qui est-ce que tu veux vraiment servir après toutes ces années, après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a vraiment un client ou une niche particulière pour laquelle tu as envie de travailler? Et je me suis dit, bah oui, au bout de 7 ans à travailler pour des spiritueux, des liqueurs et tout cet univers-là, je me suis dit, lance-toi spécifiquement dans la boisson.
D'accord.
Et du coup, à partir de 2019, j'ai pivoté essentiellement sur la boisson, avec 2-3 projets food aussi, plus alimentaire, mais qui reste un peu quali et pas forcément, enfin qui reste lié avec la boisson, mais en tout cas boisson à 95%. Et du coup j'ai fini par creuser et créer mon expertise autour de ça pour devenir petit à petit quelqu'un d'incontournable, ou en tout cas qui connaît très bien son domaine. Donc, si tu veux m'appeler pour faire un site internet de bouteilles de white spirit, ça sera pas avec moi. Au final, ça sera voilà. Si tu veux faire des boules de Noël et créer un site internet là-dessus, bah ça sera pas avec moi non plus. Enfin, tu vois. Je suis focus uniquement boisson maintenant et ça me va très bien. Et j'ai compris au final que ça a pu me faire pivoter et devenir quelqu'un de plus intéressant pour cette niche et cette industrie. Donc voilà pourquoi j'ai pivoté, pour faire court, enfin ouais. Après tout ce monologue, pourquoi j'ai pivoté de... design uniquement à brand strategy, parce qu'au final, à l'époque, je voulais faire du beau, du design, de l'esthétique. Et il y a un côté égo aussi où tu veux avoir le portfolio le plus stylé du monde pour que tu sois le seul réputé ou avec de la notoriété. Et en fait, je me suis rendu compte que j'écoutais pas le client en faisant ça. C'était juste pour moi, juste pour ma gueule, juste pour avoir des beaux projets. J'ai pivoté dans la brand strategy pour réellement écouter le client et lui fournir ce qu'il veut. Et arrêter de le blâmer parce qu'il me dit de mettre le logo trop gros et que ça me saoule parce que je trouve que ça va être moche. Au final, il n'y a plus du tout ça dans mon esprit. Il y a vraiment de l'écoute, de l'empathie et un projet qui a du sens et qui est drivé stratégiquement. Voilà, désolé pour cette longue tirade.
Non, mais je crois que le côté prix, c'est un peu le problème avec beaucoup d'agences qui développent des spots de pub juste pour se faire kiffer, où tu as le côté caricatural pour aller tourner une pub, comme tu as un peu dans 99 francs, quoi, le côté on va tourner une pub pour yaourt au Brésil, quoi.
C'est exactement ça.
Où on va faire des trucs juste pour être beau dans les festivals de publicité, mais qui finalement, côté conso ou même pour le client, n'ont pas grande valeur, quoi, à part effectivement booster l'ego.
J'étais assistant directeur artistique à Euro RSCG, donc qui est devenu Havas 360. Et c'était typiquement ça. En fait, tu avais la sphère créatif, concepteur, rédacteur et pub. Et ils arrivaient avec plein d'idées. Ils étaient foufous et c'était génial. Et j'étais dans cette team-là. Mmh. Et puis après, tu arrives dans la salle de réunion avec le côté stratégique, marketing, très terre-à-terre. Et au final, OK, bah, c'est parfait. Vous êtes fait plaisir, mais on va pas faire ça, quoi. Au final, c'était pour Oscillococcinum à l'époque. C'était un spot de pub pour pour ce produit-là. Et puis au final, c'est parti d'un brief ultra créatif à un truc de très cool. Ah, au final, bah, le mec, il prend son oscillococcinum, son écharpe, elle s'envole, et puis ça y est, ouais, le spot final, quoi. Donc il n'y avait rien de... Ouais, tu vois la pub. Et il n'y avait rien de fou et de créatif là-dedans. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est ça être créatif dans une boîte de pub, au final. Donc bon, après...
Et du coup, alors... C'est la vie. Donc graphisme, tous ces devs de sites web, je pense que tout le monde visualise bien. Est-ce que tu peux définir rapidement ce que tu entends par brand stratégiste exactement?
Brand stratégiste, c'est écouter le client, mm-hmm, et trouver une solution à son problème majeur, à son obstacle, et en fonction de son budget, de son objectif. Et c'est pas forcément être focalisé sur du scope. Donc, quand je dis scope, désolé, c'est plus des livrables. Généralement, on va venir vers moi avec j'ai besoin d'un site, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin. Et le client a pas forcément besoin de ça. En fait, il a besoin de quelque chose peut-être de plus important, peut-être de plus. Ce qu'il a besoin, c'est d'augmenter ses ventes. Ce qu'il a besoin, c'est d'optimiser sa visibilité. Enfin. Il y a toujours quelque chose de plus, il y a toujours un objectif un peu plus grand que juste un listing de variables et de livrables. Donc en fait, mon but, c'est vraiment de comprendre ce qu'il a besoin, peut-être même inconsciemment, du coup, en demandant pas mal de fois pourquoi tu as besoin de ça, pourquoi, t'es sûr, est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que. Donc mon but, c'est vraiment pas de prendre l'argent des gens et leur dire ouais, je peux te faire ça. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant 5-10 ans où tu es là, tu dis « Ah, vous avez un site internet, il est vieux, hein, il faut le refaire. » Alors que non, peut-être que le site internet, il est vieux, mais il fonctionne comme ça et qu'il faut, s'il faut faire des choses, c'est autre chose. Mm-hmm. Donc, le brand stratégiste, c'est quelqu'un qui va comprendre où en est la boîte, où elle veut aller et qui va diagnostiquer d'abord tout ça.
D'accord.
Pour ensuite donner des perspectives, des insights, des feedbacks, du conseil sur quelle est la bonne stratégie à adopter, quel est le bon outil à développer ou la belle identité à designer. Mais en tout cas, c'est d'abord une roadmap complète de ce qu'il faut faire et pourquoi. Et le client ne le voit peut-être pas au début. Il voit peut-être ça comme du bullshit ou non, mais on l'a déjà fait en interne. Sauf que tu l'as déjà fait, mais tu n'es pas brand stratégiste, donc tu l'as peut-être mal fait. Donc voilà. Et au final, le but, c'est d'investir un petit peu au début pour économiser au fil des années. Donc, c'est sûr que si ta boîte, tu veux qu'elle dure un an ou deux ans, bon, bah, tu n'as pas besoin de plein de stratégies. Mais ouais, si tu bâtis quelque chose qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, tu as besoin de réfléchir directement pour éviter un rebranding quand ta marque va marcher. Parce que ça, c'est ce qui arrive tout le temps. C'est, tu commences comme toute startup, tu ne mets pas assez dans la strat. Et au bout de deux ans ou trois ans, ça marche bien. Tu dois te retaper tout un rebranding. Et là, ce n'est pas le même prix après. Donc,
ouais, je pense qu'il y a...
Donc voilà pour moi.
C'est... Ce qui est peut-être le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne se posent pas la question nécessairement de pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ils ne se posent pas non plus la question des objectifs qu'ils ont. Par conséquent, quand ils font des choses, s'ils n'ont pas défini en amont bien leurs objectifs et pourquoi ils le font... ils font juste, si on est dans les boissons par exemple, des fois tu te dis mais pourquoi ils font une soirée de lancement ou quoi, c'est quoi l'objectif derrière quoi, est-ce que l'objectif c'est juste de payer des coûts à tout le monde, objectif rempli. Par contre, si le but c'est de la notoriété, des ventes en plus ou quoi, peut-être que c'est là que tu réalises que effectivement c'était peut-être pas une soirée qu'il fallait faire, c'était peut-être autre chose, c'était peut-être quelque chose de plus profond, une réflexion sur tout ça.
C'est vraiment de la verbalisation, en fait. C'est de la psychanalyse ou de la psychothérapie de marque, clairement. C'est tu fais sortir un petit peu tout ce que tu as en tête pour mieux le cadrer ensuite, quoi.
Et ouais, et puis je trouve que les gens peut-être ne voient pas toute la valeur qu'il y a derrière, parce que clairement, dès que tu sais pourquoi tu fais quelque chose ou quels sont tes objectifs, ça va guider absolument tout ce qui suit. Et tu ne vas plus te poser de questions, tu vas juste, ok, est-ce que ça répond à mon objectif? Est-ce que ça va dans le sens que je veux aller? Du coup, au-delà de juste, vendre des bouteilles en plus. Hein. Mais voilà, du coup, ouais, tu, toi, Toi, tu m'avais pointé sur le côté no bullshit la semaine dernière. Que moi, ce qui, en regardant tes trucs, ce qui est un truc que j'ai vu dégager, c'était peut-être un côté engagé. Peut-être sur le côté, c'est pour ça que je te demandais grande barrière de corail, ce genre de choses, ou greenwashing, parce que j'ai le sentiment que toi, ce qui est sous-jacent dans ce que tu fais aussi, c'est le côté plus environnement. Alors, dis-moi, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est quelque chose...
Alors, le côté environnement, c'est quelque chose à la base auquel je ne pensais pas du tout. Mmh. Et au fur et à mesure, quand tu vis, quand tu t'intéresses, quand tu vois le monde dans lequel tu vis, quand tu commences à vivre dans des pays anglo-saxons, notamment en Australie, où tu vois que il y a beaucoup de végétariens, il y a beaucoup, il y a aucun, on te montre pas du doigt. Alors je suis pas végé, mais en tout cas, je fais attention à ma consommation de viande parce que quand tu fais attention à ça, et ben ça va faire un peu plus attention à la planète et puis à la souffrance animale et puis à tout ce genre de causes qui sont un petit peu plus grandes que toi. Mmh. Et petit à petit, je me suis recentré sur qu'est-ce qui a vraiment du sens, pourquoi tu es là sur la Terre, etc. Des questions spirituelles de créatif éternel. Et puis oui, quand tu vis proche de l'eau, alors quand j'étais à Lyon, ça ne me le faisait pas, mais voilà, quand tu vis proche de l'eau, là, c'était la Great Ocean Road, le fameux spot à la fin du film avec Keanu Reeves, là.
Point Break.
Je me souviens même. Point Break, ouais. Putain. Pourquoi je me souviens plus de ça, quoi. la fameuse plage de Point Break, où après, vivre à Tahiti, là, c'est encore un déclic supplémentaire où là, j'ai fini mon niveau 2 de plongée. Donc, je peux le plonger à 40 mètres maintenant, c'est cool. Et tu vois des choses extraordinaires, quoi. Tu vois des raies, t'entends des baleines, tu vois des requins et tu commences à, enfin, tu comprends un petit peu plus la faune, pourquoi il faut préserver tout ça. Et du coup, je me suis dit, que je vais faire le même travail que je fais pour mes clients.
D'accord.
C'est que j'ai commencé à réaliser qu'il faut que je soutienne une cause aussi pour... parce que je suis un designer de packaging aussi. Le packaging, au final, c'est un produit qui va s'accumuler, qui va être produit, qui va peut-être pas être recyclé derrière, qui va faire toujours plus de matière et qui va être nocif au final pour la planète. Donc, je ne fais pas du greenwashing du tout, mais j'essaie juste de réfléchir à comment je peux avoir un impact là-dedans. Donc, j'essaie d'avoir des super guests dans Super Potion qui sont aussi impliqués là-dedans et de m'intéresser à d'interviewer certaines personnes qui sont dans le développement durable ou dans le recyclage, dans des démarches un petit peu environnementales. Et à partir de 2022, j'aimerais bien reverser 1% de mon salaire, enfin faire partie de 1% for the planet, pour pouvoir après sélectionner mes associations. J'aime beaucoup Surfrider parce que je suis une love du Pays Basque. Ils sont là-bas, ils font des actions pour ça. Après, il y a peut-être des actions sociales aussi qui pourraient être intéressantes parce que la planète, si elle est détruite par l'homme, au final, elle finira par se régénérer, mais pas l'homme. Mmh. Et du coup, peut-être que les causes sociales sont aussi, voire plus importantes que les causes environnementales. En tout cas, tu ne peux pas tout faire et tout choisir. Donc, il faut sélectionner ton parti pris. Mais voilà, en tant que designer de packaging, j'estime qu'on a aussi un rôle très important sur l'avenir, sur comment on produit, sur produire des bouteilles qui ont un verre peut-être plus léger, moins épais, arrêter de faire des coffrets qui ne servent à rien. On en parlait sur des autres épisodes avec le marketing éthique, mais en tout cas, faire des étiquettes avec moins de papier, avec moins d'encre, avec des encres végétales. Donc, je ne dis pas que tout ça est facile à mettre en place. En tout cas, c'est des idées qui sont là et qui sont constamment derrière ma tête.
On va dire
à tel point que je vais recentrer ma niche sur des entreprises à mission aussi, petit à petit avec Studio Backsense et des entreprises éco-responsables. Enfin, s'il y a une entreprise chinoise qui va me demander de faire des bouteilles PET en plastique pour un soda, je dirais non, clairement, voilà.
Ok, c'est renforcer le positionnement parce que justement, c'était la question derrière, c'était un peu ça, c'est... Autant, je sais pas, sur une distillerie, sur une marque, on va dire, c'est facile de se positionner, de dire ok, on fait des emballages moins lourds, on fait des trucs 100% recyclables et tout. Côté producteur, donc c'est des choses assez évidentes. Côté bar, tu as des bars aussi qui mettent ça en avant, genre anti-gaspi, on va tous les déchets de la cuisine, on va s'en servir pour faire nos cocktails, ou 100% de ce qu'on utilise pour les cocktails va être utilisé pour autre chose, et ainsi de suite. Et autant sur une partie plus communication et compagnie, c'est là que je me demandais comment tu fais vivre ces trucs-là, mais ok, j'ai compris. Donc
C'est plus en posant des questions aux clients, justement. On travaille beaucoup sur la cause. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de juste je veux faire une recette de hard seltzer parce que c'est la tendance. Pour moi, tu vois, quand on me dit ça, je dis soit tu trouves une cause et un truc qui fait que tu vas aider les gens, soit on ne travaille pas ensemble. Parce que je déteste les opportunistes. Et je travaille avec des gens qui sont passionnés, qui sont acharnés et qui veulent vraiment du bien aux autres et à la planète. Donc voilà, on s'acharne justement à trouver une cause et quelque chose qui fait sens avec le background de chacun pour que chacun vive de sa passion et qu'il se lève au jour le jour avec cette vigueur et cette ferveur autour de cette mission, quoi.
Ok, très bien. Et alors, sinon, si j'en reviens plus à tes projets, plus concrètement, donc j'ai vu que tu as fait, donc là par exemple, le truc le plus récent, c'est que tu mettais justement des images à dispo gratos sur Unsplash. Tu travaillais sur un mock-up aussi pour aider les boîtes à mettre en avant leurs produits sur des canettes qui ont l'air physiques et tout. Du coup, tu as fait ce projet-là de 366 cannes pendant un an où tu designais tous les jours un packaging, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
J'ai vu que tu avais aussi fait un e-book sur les podcasts. Tu fais des formations par mail, des choses comme ça. comment tu gères tout ça, justement ? Comment tout ça...
je me fais submerger partout, pour être honnête. J'ai juste appris à travailler beaucoup plus... En termes de temps, je travaillais beaucoup plus sur ma propre structure ou mes propres structures que pour mes clients. Ça ne veut pas dire que je travaille pas pour mes clients, ça veut dire que j'ai moins de clients, mais de meilleurs clients. Et ça me permet de me dégager énormément de temps pour développer mon business perso. Donc d'accord. En termes d'entrepreneurs, de porteurs de projets, tout ça, c'est quelque chose que je connais aussi. Et au final, j'ai trimé pendant 15 ans pour savoir quoi faire maintenant. Donc, c'est aussi quelque chose que je peux apprendre aux jeunes entrepreneurs qui se lancent et où se recentrer, pourquoi, etc. Clairement, en étant dans le marketing, tu fais que faire des expérimentations et après, tu regardes les stats et tu vois si ça marche. Et puis, tu refais des expérimentations, tu rechanges un petit truc et tu regardes les stats, tu regardes si ça marche. Et tu fais ça pendant 5 ans, 10 ans.
C'est ton labo perso, quoi.
Voilà, c'est exactement un laboratoire et c'est un truc vivant, en fait. C'est comme du kombucha, tu vois. Ça s'arrête jamais de changer. C'est organique et c'est comme une marque moderne pour moi. Au final, on a changé un branding. Il faut faire une campagne de com. Il faut faire ci. Pour moi, il n'y a plus de code dans ce monde un peu fou d'aujourd'hui. Et on va dire que je fais des transitions progressives à chaque fois. De mes différents services, de mes différents écosystèmes. J'aime bien expérimenter, donc je suis le cordonnier mal chaussé, on va dire. J'enseigne mes clients à arriver sur le marché avec quelque chose de clean et de clair. Moi, je me permets d'expérimenter. C'est un peu ce côté photographe où tu apprends toutes les bases au début pour mieux t'en dégager ensuite. Il y a ce côté-là, donc beaucoup de projets.
Donc, l'une de ces expérimentations, c'était le podcast Super Potion. Ça en fait partie, qui est peut-être, peut-être le truc le plus visible, le plus pérenne que tu aies fait. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière, comment tu es venu à faire ce podcast et voilà.
Ouais. Le podcast, c'est typiquement dans la lignée d'arriver à se nicher au final, d'arriver à exister dans cette niche parce que j'avais beau travailler pendant 7 ans pour des marques d'alcool, d'eau de vie, etc. Tu restes quand même le petit graphiste derrière la grosse boîte. Donc, en fait, t'es pas connu, t'as pas de réseau, pourquoi on viendrait à toi, etc. Donc c'est ça aussi que je mets en place petit à petit. Donc dès que je me suis dit ok, tu te refocuses sur la boisson, là dans ma tête ça a fusé. Et en fait c'est ça qui est fort aussi, c'est que beaucoup de gens croient qu'en se nichant dans un domaine d'expertise précis, on va se faire chier avec le temps, parce qu'on va faire que ça pour tout le monde. Mais en fait c'est tout l'inverse qui se passe, c'est tu plonges dedans et il y a 1000 autres portes qui s'ouvrent à toi. Et le mieux, c'est que tu connais de plus en plus ton sujet. Donc, en fait, tu as encore plus de choix, etc. Enfin, tu ouvres une porte et il y en a 10 derrière. Et c'est ça tous les jours. Et donc, du coup, là-dedans, bah ouais, je me suis dit, OK, tu es designer. Pour te prouver que tu sais encore designer, fais un petit challenge que peu de gens arrivent à finir, parce que 366 design, c'est quand même pas easy. Mais du coup, je l'ai fait et puis ça m'a apporté pas mal de visibilité plus... on va dire internationalement que forcément en France. Mais en tout cas, ça a fait un peu rayonner tout ça. Mais là, c'est vraiment juste du fun. Hein. C'est vraiment de la création du naming, de la création de branding, etc. Ça donne aussi une espèce de bibliothèque pour scroller. Et puis, le client voit quel style il aimerait bien peut-être pour ses prochaines étiquettes ou autres. Mais ça, c'était purement du plaisir. Et le podcast, c'était le premier truc sérieux que j'ai fait. Donc, j'avais fait avec La Plante du Loup. C'était une cave à bière, un caviste bière à Lyon. Et vraiment, au début, ils me demandaient, mais est-ce que ça va être payant, etc. Enfin, eux non plus, ils ne savaient pas trop, parce qu'ils n'avaient jamais été interviewés. Et puis, ça s'est super bien passé. Donc, je rappelle à tous, c'est totalement gratuit à écouter et à produire. Donc, s'il y en a qui m'écoutent là, ils peuvent très bien me contacter et me demander de passer dans Super Potion s'ils ont un produit de qualité ou un service cool.
S'ils ont les mêmes valeurs que toi.
Et s'ils ont les mêmes valeurs que moi, attention. Je pense que ceux qui nous écoutent, on a à peu près tous la même vibe, la même génération, le même type de valeur. Donc, mais en tout cas, voilà, c'était le premier truc ciblé boisson. Et en fait, ça m'a vraiment plu. Après, j'ai fait un truc plus sur les naming. Donc, j'essayais de remettre un petit peu mon expertise dans le lot. Et en fait, j'ai vite arrêté en me disant, t'es peut-être pas là pour parler de toi. Et invite des gens, invite des porteurs de projets, des gens qui se lancent. Et puis... juste pose-leur des questions. Donc là, c'est plus un travail journalistique où tu vas un petit peu fouiller sur les gens, fouiller sur ce qu'ils font et puis leur poser des questions. Et c'est super. Là, j'ai eu deux personnes dernièrement. Les podcasts ne sont pas encore sortis, mais c'était Théodore de Brewing Theory.
D'accord.
Donc, Recette Bière. Et puis Marlène de H-Theoria. Et donc, c'est au final deux créateurs et c'était vraiment
une très bonne
ultra
liqueur.
Cool de les entendre parler. Ouais, c'est la liqueur, j'ai pas goûté, hein. En tout cas, elle a l'air très bonne.
Il y en a plusieurs.
Et puis, Théodore de Brewing Theory, il a l'air de faire des produits aussi super, super quali et très pointus. Donc, quand tu interviews tous ces créateurs-là, ça te remet des fois aussi un peu en place en disant putain, ouais, ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Et puis, et c'est top de les entendre parler. Enfin, ça t'emporte un peu plus loin, etc. Ça peut te donner des idées. Donc, le but du podcast, au final, c'est d'aider les porteurs de projets, les start-upers, ceux qui se lancent, ceux qui veulent créer, de les aider dans leur création de marque pour qu'ils puissent se lancer avec plus d'outils, plus d'esprit, plus de créativité, enfin, qu'ils aient un petit peu peut-être 2-3 codes qu'ils n'auraient pas aperçus comme ça sur comment faire les choses. Notamment, je pense à mon podcast avec Loop Mission sur comment fédérer une communauté autour d'une cause. Ouais, celui-là, c'était l'un des meilleurs. Avec son accent canadien, c'était assez cool.
Donc c'est des gens qui font même du gin avec des chips ou des trucs comme ça, quoi. Donc
tant que l'aliment est recyclé, c'était très cool. Donc en tout cas, ça donne des billes à ceux qui au newbie, quoi, qui lancent leur campagne sur Kiss Kiss Bang Bang ou Ulule ou Mimosa ou Tudigo et qui savent pas. Comment faire au final, quoi mettre en avant, même pour lancer une campagne de crowdfunding, faut bien crafter les choses, quoi. Sinon ta campagne elle réussit pas. Donc il y a plein de dimensions comme ça intéressantes et c'est free, quoi. C'est donné gratuitement sur internet, c'est ce qu'on fait aussi sur ce podcast et il y a beaucoup de choses à picorer par-ci par-là. Donc le but c'est vraiment d'aider les start-upers, les millennials, la génération Z qui arrive à lancer leurs produits avec un maximum de billes, sans sans rien payer du tout au final.
Ok, non mais c'est franchement très appréciable, je recommande, voilà. Je les écoute pas tous, j'avoue, mais régulièrement, et c'est très intéressant. Et puis il y en avait un sur la loi Evin hein, qui était très cool aussi, si vous ne l'avez pas entendu.
Avec Joséphine, hein. Ouais.
Petite question, alors du coup, je sais que tu fais beaucoup pour ton travail, donc naturellement pour la stratégie, tu fais beaucoup de recherches sur les tendances, évidemment ouais. Plus spécifiquement les tendances dans le secteur de la boisson. Tu as même un article assez complet là-dessus sur ton site. Est-ce que peut-être là, tu peux nous spoiler un peu, peut-être si tu as senti des trucs pour déjà 2022 ou nous parler de ça ou de Stride.
Tu parles en tendance.
Ou comment tu trouves ces tendances aussi.
Tu parles de design spécifiquement ou de produits qui arrivent
Les deux. Vous, après, plus sur ce dont tu es spécialisé, je pensais à la boisson en général, ouais. Sans forcément penser à format ou recette.
Alors,
ou quoi,
déjà, il mais... y a un gros boom des canettes et ça va être de plus en plus. Et pour plus en plus de types de produits différents, à mon avis, la France commence doucement à se rendre compte que la canette, c'est pas si mal, c'est pas forcément associé qu'à la 8-6. Et qu'on peut avoir des produits de qualité dedans et qu'au final, selon le produit, ce n'est pas forcément le conditionnement final. Si tu mets un vin en canette, tu vas le boire quand même dans un verre à la fin, sauf si tu t'en fous un peu du goût, tu fais un pique-nique et que tu es dehors avec tes potes. Mais là, c'est un autre délire. Tu n'es pas là pour déguster, tu es plus là pour partager un moment convivial. Mais en tout cas, je pense que le boom de la canette pour du kombucha, pour du hard kombucha, pour du hard seltzer, pour du vin… pour du saké, pour des spiritueux saké, aussi ouais, comme ça qui arrivent arrive en vin. Donc je pense que la canette c'est cool. Ça veut pas dire que c'est qu'il faut tout mettre en canette bien évidemment. Faut peut-être aussi arrêter de dire que c'est recyclable à l'infini. Ça c'est un truc d'accord. que je vois partout.
Oui, parce qu'il y a un argument
en soi,
écologique aussi quand on met
ouais,
en avant.
Il y a un argument écologique, mais je dirais que l'argument écologique, il est plus vrai, réel dans le stockage, dans le fait que c'est moins lourd au final, donc peut-être d'accord. que ça émet moins de carbone, etc. Et puis pour la conservation et tout ça, c'est bien. Mais pour le côté recyclable à l'infini, je suis encore mitigé parce que même si c'est le cas, ça ne l'est pas parce que les systèmes ne sont pas encore… de collecte, etc., sont pas encore bien traités. Il y avait je crois que c'était la Boucle Verte qui avait commencé une start-up, ils avaient levé des fonds et ils avaient mis la clé sur la porte avec un manifeste assez froid sur au final, ils pouvaient rien changer. Et c'était trop triste parce que leur mission était belle et ils s'étaient rendu compte que c'était pas si simple que ça, quoi. Donc, juste pour moi, ce n'est pas parce qu'on fait de la canette qu'il faut placarder sur son site recyclable à l'infini et tout. Pour moi, c'est un petit peu greenwashing et je pense qu'il y aura peut-être d'autres manières de voir les choses. Bon, ça, c'est un petit aparté. Mais en tout cas, boom de la canette quand même, ce qui va mettre en valeur mon 366 cans challenge.
D'accord.
C'est cool. Mais merci Melbourne et les Australiens avec leur produits fous. Qu'est-ce qu'on va voir de plus en plus de catégories folles. Hein. Là, on parlait du hard kombucha il y a quelques épisodes. Je pense qu'on ne va pas arrêter sur l'innovation et sur les différents goûts. Et du coup, ce que je voyais beaucoup chez les anglo-saxons, c'était les designs, l'illustration qui revenait vraiment. Donc, ça fait peut-être entre 3 ans, 5 ans que l'illustrateur refait son apparition parce que c'était une discipline dans le design qui n'était pas d'accord. qui était un peu devenue invisible. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de sociétés corporate qui se sont réappropriées ça. Quand tu vas sur LinkedIn, par exemple, où tu vois des illustrations directes sur la page d'accueil, etc. Donc, tout ce côté illustratif revient pas mal. Et au final, pas mal d'illustrations en type BD, tu racontes des histoires sur une canette parce que t'as vachement plus de place et tout. Par contre, attention à ça. Je pense que beaucoup de gens se lancent dedans pour les bières saisonnières, par exemple, ou pour plein de types de breuvages saisonniers ou intempestifs. Mais je pense que ça peut nuire à sa marque. Enfin, en tout cas, on peut ne pas se rappeler de toi juste parce que, enfin, c'est pas parce
c'est
que tu as un
complexe.
Beau design. C'est très complexe, ça, ça fait beaucoup de bordel sur les étalages et ouais. Au final, t'achètes, tu goûtes, tu te rappelles plus forcément déjà de la marque parce que ça cache la marque. Le design, si tu mets un monstre ou un dragon super bien fait, bah, c'est joli, tu peux le garder dans ta collection. Mais au final, la marque, elle est derrière en tout petit et tu t'en rappelles pas. Donc il faut vraiment faire attention à ça.
Plus gros le logo.
Bien rester reconnaissable. Plus gros le logo. Bah, là, je pense typiquement à BrewDog. BrewDog, ils ont réussi à faire un travail de com extraordinaire parce qu'ils ont leur bouclier, leur emblème, mais ils arrivent à être quand même un peu disruptifs dans leur manière d'être et ils ne font pas des illustrations dans tous les sens et ils sont quand même modernes et un peu cutting edge et ça reste identifiable. Donc ça, c'est très important. Après, en termes de tendance, je dirais que la typographie va faire un peu son grand retour ou en tout cas, les gens commence de plus en plus à apprécier ça, peut-être sur Insta ou même sur certains blogs où la typo devient beaucoup plus folle, beaucoup plus funky. C'est comme si on faisait un retour aux années 70, mais dans les années 2021-22, où des typos un peu dingues arrivent avec des formes un peu distordues, etc. Donc, pas mal de jeux typographiques. Donc, faites attention aux typos que vous utilisez, faites attention aux licences quand vous les achetez. Au final, faites-en vous faire des customs quand c'est possible. Là, je suis en train de faire un rebranding pour Loki Kombucha, très bonne boisson de Sébastien et Nina. Et on a travaillé sur une typo custom, clairement, pour se réapproprier la marque et pour avoir quelque chose de une brand identity beaucoup plus identifiable. Et je pense que toute marque devrait avoir sa propre typo. C'est vraiment... Il y a un côté fierté derrière après. Mmh. Tu as ta typo, tu as tes caractères et du coup, tu as ta voix de marque derrière qui se retranscrit. Donc, côté typographique, beaucoup pour moi. Et les couleurs un peu vives, un peu folles. Peut-être des assemblages de couleurs qui ne seraient pas forcément... qui piquent un peu l'œil.
Ouais.
Mais ça, c'est typiquement nouvelle génération.
Un peu glitché, ouais.
Ouais, ah ouais.
Donc, je vois.
Ouais, c'est quelque chose qu'on voit pas mal.
Si on revient au packaging, le papier, c'est un truc que tu vois. On voit les bouteilles en papier, là, on voit des projets là-dessus, avec Silent Pool, avec Johnny Walker, avec Absolute Vodka. Il y a.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai
Il y a Bacardi qui avait fait ça aussi.
Il y a bouteilles.
Même Coca.
Ah oui, oui. Il y a. J'ai vu aussi des bouteilles en lin, c'est ça, en lin recyclé ou je sais plus, enfin avec plein les bouchons compostables, les trucs comme ça. Enfin, je sais pas, est-ce que t'as.
C'est un peu le. Ça fait un peu partie de la sphère design régénératif. Je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui se mettent dedans pour essayer de voir s'ils font ça avec du maïs, avec du pop-corn, ou essayer de faire en sorte que les cellules se régénèrent pour que ça soit. Compostable ou éco-friendly, etc. Après, par exemple, pour les bouteilles de Bacardi, j'en avais parlé avec des gens, et d'ailleurs, je ferai un podcast peut-être là-dessus avec des gens du packaging qui me disaient clairement que c'était du bullshit parce que, certes, tu as du papier, mais le produit complet est composé de plein de matériaux différents, ce qui fait que ça rend le truc encore plus irrecyclable que d'autres produits.
D'accord.
Parce qu'au final, tu as quand même une très fine couche de PET à l'intérieur ou un matériau un peu bizarre. Et ce qui fait que, vu que tout est un peu emmêlé l'un avec les autres, tu ne sais plus où foutre ta bouteille et que ça serait faussement écologique, bien que de l'extérieur, tu vois une bouteille en papier. Donc,
méfiance.
Après, je n'ai pas.
C'est comme.
Juste méfiance.
Il y a un docu sur Starbucks là-dessus qui parle pas mal de ça. De la catastrophe avec les gobelets Starbucks qui ont l'air en papier et tout, mais pour être étanche, il y a évidemment, c'est Arte, je crois, qui a fait ça. Ça s'appelle Starbucks Starbucks sans filtre, un truc comme ça.
c'est intéressant ça.
À voir sur.
Tetra Pak, c'est une ignominie de la vie, c'est un truc de fou parce que. Quand tu achètes ton jus de fruits, tu penses que c'est du papier, tu le mets dans le truc à recycler. Et là, on le voit très bien à Tahiti, c'est le recyclage, c'est un peu dur. Et au final, les Tetra Pak, ils sont pas pris, etc. C'est le produit le plus bullshit du monde. Et pourtant, ils l'ont ultra bien marketé. Et tout le monde pense que c'est du carton et tout. Mais honnêtement, si vous voyez un petit logo Tetra Pak, faut pas acheter, quoi.
Et sinon, alors dans un tout autre style, est-ce que TikTok, c'est pertinent, par exemple, pour les spiritueux, pour toi ou...
Non.
Non, ok.
Non. C'est pas pertinent non plus pour le genre de clientèle que je veux attirer. Je m'y suis mis sur TikTok pour voir ce que ça donne. Et parce que pour mes canettes, il y avait des canettes un peu animées, tout ça. J'ai vu que je me suis réveillé un matin, j'avais, je sais pas, 1000 ou 2000 vues sur une canette animée, alors que sur Insta, j'avais 3 likes. Donc je me suis dit, ah ouais, il y a un algorithme sympa. Donc pour moi, à part l'algorithme. Puis ici à Tahiti, c'est un truc TikTok. Hein. Ouais. Enfin, c'est tous les coins de rue, tout le monde danse, etc. Et tous les âges, c'est ça qui est un peu drôle. Mais pour une marque de spiritueux, honnêtement, enfin, sachant que déjà, il ne faut pas cibler les mineurs, c'est un peu…
Je ne sais pas.
Tu y crois, toi ?
Non, enfin…
Après, il ne faut pas être un vieux con. Hein. Il faut rester ouvert parce que ça se trouve dans,
pas, mais effectivement,
dans 5 ou 10 ans, ça sera le truc.
Tu as probablement un gros souci de ciblage. Et je pense, oui. Si vous êtes une marque, il faut être très vigilant là-dessus parce que autant sur certains réseaux, on peut très facilement cibler, autant là, je ne sais pas si c'est le cas. Et sachant que c'est une audience beaucoup, beaucoup plus jeune que d'autres réseaux, attention. Mmh.
Pour moi, ça fait sens que Le Monde soit sur TikTok pour éviter la désinf, pour faire attention à tout ce genre de problème. Mais c'est un autre problème. C'est pas le carcan de la boisson. C'est pas à part Coca, tu vois.
Et toujours Coca, Red Bull, tout ça. Toujours sur les tendances. J'ai vu sur ta page ta page Now que tu t'intéressais aussi peut-être à tout ce qui est lié au cannabis. Et ce que tu vois, parce que moi je vois beaucoup, je lis beaucoup de trucs qui ont l'air, je sais pas, aux États-Unis, ça a l'air d'être un truc vachement à surveiller, que Pernod Ricard, Diageo, ils ont tous investi dans des boîtes qui, de plus ou moins loin, sont dans ce business. Là, je relayais sur Disty News une news sur Monster Energy qui peut-être fusionnerait avec Constellation Brands, et il s'avère que Constellation Brands a investi dans un truc qui fait du CBD au Canada, et enfin bref, et qu'il y a des ponts comme ça. Du coup, je sais pas, est-ce que toi tu vois ça dans les tendances aussi à surveiller?
Ouais, évidemment, j'ai oublié ça, mais dans les tendances, il y a effectivement le CBD. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent à propos du CBD aussi. Je fais un peu le lien avec les spiritueux, avec l'alcool, parce que il y a un peu une réminiscence avec le côté tabac, alcool-tabac. Donc du coup, ça fait sens de travailler aussi en tant que designer spiritueux. Ça fait sens de travailler avec des marques de cannabis, de CBD, etc. Ce que je trouve plus ambigu, c'est que maintenant, c'est fou en fait. Jamais, il y a 10 ou 15 ans, tu aurais pu mettre le mot cannabis sur ton site français en ayant peur de te faire tacler ou quoi. Et là, le monde est dingue. En fait, tu te dis, allez, c'est parti. Je travaille pour des marques de cannabis, je fais du CBD. Alors, faire attention, au Canada, aux États-Unis, c'est directement du THC, même en Suisse d'ailleurs. Donc là, pour le coup, c'est légalisé, c'est beaucoup plus… Mais du coup, ça fait penser à d'autres questions. Est-ce qu'un jour, ils ne vont pas légaliser ça en France, etc. Et en tout cas, il y a une vraie tendance qui arrive. Alors, pareil, c'est au premier qui va se lancer dedans, qui va peut-être réussir ou pas. Il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée au-delà. Il ne faut pas que ce soit opportuniste, comme tout. Et là, tu es revenu d'Hawaï avec un petit flacon de CBD à se mettre sous la langue, là, sublingual. Bon, honnêtement, à part ce petit goût de weed que tu as en arrière-goût, le truc, je ne sais pas, je le prends, je me dis, allez, je vais essayer deux gouttes avant de dormir et tout. Honnêtement, ça ne me fait rien, quoi. Enfin, je ne sens pas que ça m'apaise, je ne sens pas que ça me calme, etc. Donc, je suis dubitatif sur le fait que rajouter du CBD dans une bière ou dans un breuvage ou dans un vin, j'ai vu qu'il y avait des vins là, qui sortaient ça.
Ah, ok.
Je demande à voir et interviewer des personnes autour de ça pour apprendre des choses. J'avais interviewé Baga Boisson qui faisait une boisson au cannabis, mais sur le côté apaisant, pour moi, il vaut mieux se faire une petite médite de 5 minutes par jour plutôt que de boire un truc au CBD, tu vois, dans l'idée. Donc, ça va être mon combat à moi, tu vois.
Ok, bon, on arrive.
Ah bah, toi, tu es sans alcool, moi, je suis sans cannabis. sans CBD.
On arrive au bout. Peut-être une petite question plus perso. Enfin, un petit peu plus perso. Avec le recul, si tu devais te donner un conseil au toi d'il y a 10 ans, quel serait ce conseil ?
Oh, ça ne serait pas un, ce serait 1000. Mais me spécialiser, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire assez rapidement. La spécialisation qui est très importante. Bien qu'au début, quand tu te lances, il faut écumer les projets, il faut en faire plein pour savoir vraiment ce qui te parle à toi et qui t'as envie de servir comme personne. Mais pas beaucoup de projets sur ton portfolio, mais des projets efficaces. Genre 3, ça suffit, pas besoin d'en avoir 15. La spécialisation et l'ego à la poubelle. Et éviter de trop penser à soi et plus penser à son client pour éviter de le blâmer plus tard pour chaque action de merde qui peut se passer dans ta relation avec lui. Et j'avais une autre chose en tête, je ne me rappelle plus. Mais je crois que la spécialisation...
L'idée de se nicher assez tôt, qui est probablement un bon conseil pour...
Au bon moment. Et dire non. C'est peut-être le premier conseil. Dire non quand ton instinct te dit que ça ne va pas le faire, même si tu es un petit peu dans la dèche, il vaut mieux refuser un projet qui va aboutir à un échec pour toi, pour le client, à une perte de temps, à une prise de tête. Donc plutôt dire non à ça. Et du moment où tu dis ton premier non, après tu en dis de plus en plus et tu te sens beaucoup mieux parce que tu gardes que des projets dans lesquels tu as de la conviction et sur lesquels tu peux t'éclater. Dire non, c'est quelque chose d'assez important, quoi. Donc, et éviter le syndrome de l'imposteur, parce qu'on a tous quelque chose à donner et on est tous bons dans quelque chose. Donc, essayer de lutter contre le fait que « Ah, mais je n'ai pas assez d'expérience, je ne vais pas y arriver, etc. » Par pitié, essayer de lutter contre ça parce que ça peut détruire une carrière au final. Donc,
Voilà. Ensuite, tu m'avais posé cette question la semaine dernière. Je te la repose. Un bouquin que tu conseillerais
Là, sans hésiter, Win Without Pitching Manifesto de Blair Hens.
Blair Hens.
N-N-S, yes. Win Without Pitching, c'est vraiment c'est une bible avec des commandements pour toute entreprise créative qui voudrait réussir dans le milieu. Donc ça, c'est...
Okay.
C'est en anglais, mais c'est à lire.
Et donc là, tu es à Tahiti et juste next step, donc tu vas rentrer en France début d'année prochaine, hein, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Donc pour tous ceux qui sont frileux de travailler avec moi parce que je suis à l'autre bout du monde, au final, je reviens en France et à Lyon particulièrement aux alentours de février-mars 2022.
Ok, et donc d'ici là, si les gens veulent te suivre... Où faut-il aller ?
Eh ben, ils peuvent me suivre sur Blackthorns avec un sdesign.com où vous tapez tout simplement Studio Blackthorns sur Google. Donc ça, c'est pour la partie des marques bien établies pour du rebranding essentiellement. Si vous êtes une startup génération Z, porteur de projet, créateur, etc., entrepreneur, c'est plus superpotion.fr. Sur lequel je vais mettre en place très prochainement 3 offres différentes de consulting, de workshop, etc. pour arriver au mieux à piocher suivant quel budget vous avez et quelle volonté, quels objectifs vous avez. Et superpotion.fr/podcast, vous pouvez retrouver tous les podcasts de Superpotion, également sur Ocha, c'est la plateforme du podcast. Donc voilà, et dernier lien, peut-être 366canschallenge.com, c'est là où j'avais fait toutes mes canettes pendant un an, mes 366 canettes. Et voilà, Studio Blackthorns sur Instagram. Et je pense qu'on est à peu près bon. ça fera beaucoup de choses à retenir sinon.
Parfait. Bah, dans tous les cas, on va mettre tous les liens en commentaire. Donc, si vous voulez aller creuser tout ça, vous aurez toutes les ressources, évidemment. Et voilà, c'était donc Ludovic Mornan pour The Bottlefield Show. Si cet épisode vous a plu, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à repartager. Si vous découvrez que maintenant, bah écoutez, il y a eu 11 épisodes jusque-là, donc vous pouvez les retrouver sur le site bottlefield.co, sur cette chaîne YouTube et aussi sur vos plateformes podcast préférées. Voilà, voilà.
Et n'hésitez pas à revoir l'épisode sur Fred aussi, sur Distill News.
Voilà.
Et sur sa vie plus personnelle.
Et voilà. Puis j'en profite, si vous avez tenu jusque-là et tout, je vous en félicite. On va essayer de faire un épisode live le 16 décembre prochain, si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc si ça vous botte, notez ça dans vos agendas. Ça serait 19h, 20h environ. Heure française, je précise. et voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à relayer, pas vous inscrire encore, mais enfin voilà, on en reparlera d'ici
là. Si vous avez
là.
Des thèmes en tête, etc., ouais.
Exactement.
Vous serez informé.
Si vous avez des questions, préparez-les, ça peut être cool. Merci beaucoup.
Parfait.
Ciao.
À plus, Fred.
Ciao. Et voilà, c'en est fini de cet épisode avec mon co-host du Bottlefield Show. J'espère qu'il vous a plu et que ce premier pas dans le format interview aura suscité votre intérêt. Comme je le disais en intro, c'est quelque chose que je souhaite développer en parallèle à tous mes contenus d'actualité, bref, à suivre sur 2022. D'ici là, vous pouvez toujours vous abonner à ma newsletter d'info cocktail bar spiritueux sur distillnews.com, de même pour ce podcast sur vos plateformes préférées, et évidemment, n'hésitez pas à suivre également The Bottlefield Show. Je vous mets les liens en description et vous dis à cette fin de semaine déjà pour un nouveau numéro de Distill News commenté par votre serviteur. Sur ce, portez-vous bien. Ciao !